7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
Anastasie Tudiège.
Bonjour les voisins et les voisines. Aujourd'hui vendredi, c'est jour d'éducation. Graphème, phonème, syllabique, mixte. Il sera question de l'apprentissage de la lecture aujourd'hui les voisins. Un chiffre étonnant, édifiant, 20% des jeunes élèves français de 15 ans sont en grande difficulté de compréhension de l'écrit. Chiffre qui est préoccupant puisque lire, c'est comprendre. Donc ce chiffre et des questions. Comment fonctionne l'apprentissage de la lecture physiologiquement et psychologiquement? Quels sont les défis auxquels sont confrontés les enseignants et les parents pour enseigner la lecture? Quelles sont les méthodes qui ont cours aujourd'hui? Comment les enseignants choisissent-ils leurs méthodes? Y a-t-il des méthodes qui conviennent mieux à des profils d'élèves ou de culture que d'autres? Que de questions autour d'un sujet fondamental puisqu'il paramètre notre rapport au monde et détermine nos choix d'études comme de vie? Pour répondre à mes questions et aux vôtres, les voisins, trois invités. En studio avec moi, Janine Rechtat, bonjour.
Bonjour.
Professeur honoraire de philosophie, co-auteur d'un livre vraiment à remettre entre toutes les mains, enseigner efficacement la lecture aux éditions Odile Jacob, et puis co-auteur également du manuel d'apprentissage de la lecture pour le CP qui s'appelle Je lis, j'écris aux éditions Les Lettres Bleues. Et vous vous occupez aussi d'un site qui est un super support pédagogique qui s'appelle Les Lettres Bleues.
Oui.
www.leslettresbleues.fr.
Oui.
Au téléphone de nos deux autres invités, Jean-Pierre Terrail, sociologue de l'éducation, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes monsieur co-auteur de ce livre formidable que je viens d'encenser, enseigner efficacement la lecture, toujours aux éditions Odile Jacob. Et Édouard Jantaz, bonjour.
Bonjour.
Directeur de recherche au CNRS, au sein du laboratoire de psychologie et de neurocognition. Et vous êtes l'un des auteurs d'un autre livre formidable. Décidément, nous sommes gâtés aujourd'hui les voisins. Apprendre à lire, des sciences cognitives à la salle de classe aux éditions Odile Jacob. Toujours merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Le moins que je puisse dire les voisins est que le sujet vous passionne, vous réagissez d'ores et déjà sur la page Facebook de 7 milliards, surtout continuez. Et puis le standard est toujours à votre disposition, 00 33 84 22 71 71.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins, tous ensemble.
7 milliards de voisins, mais entre nous là, entre les voisins, hein?
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Bon, j'espère que vous aurez fait la traduction les voisins, c'est 00 33 1 84 22 71 71. Intéressons-nous d'abord au phénomène de la lecture à proprement parler. Vous dites dans votre il est dit dans le livre auquel vous participez, Édouard Jantaz, que la lecture n'est pas une activité naturelle pour l'enfant. Vous pouvez nous expliquer?
Oui, en fait, on a l'impression que nous, c'est quelque chose de naturel parce qu'on est adulte.
Absolument.
On a automatisé notre lecture, donc on a l'impression qu'il n'y a pas d'effort, que ça ne consomme vraiment aucune ressource, qu'on lit très facilement pour la plupart des gens. Et en fait, pas du tout. C'est une activité extrêmement complexe et qui est purement culturelle et qui a été largement préparée dès la naissance avec tout un travail avec les sons pour arriver après à une instruction vraiment formelle à partir de la maternelle et de l'école primaire. Il y a eu un entraînement systématique, intensif, qui fait que c'est vraiment une vraie activité culturelle et pas du tout naturelle dans le sens où, comme pour, par exemple, le langage, on pourrait parler que nous sommes pré-câblés pour parler. À peu près, si on est stimulé, qu'on est dans un environnement où on nous parle, les enfants vont parler.
Oui.
Tandis que lire, ça demande explicitement tout un travail d'instruction formelle, très précis et systématique.
Alors, cette information est importante parce que peut-être pour les parents qui nous écoutent, ça expliquera ou ça incitera à accompagner l'enfant dans la lecture et peut-être ne pas le laisser uniquement dans le contact avec l'enseignant.
Ah ben, absolument. Moi, je pense que c'est vraiment tout un travail. De toute façon, que la plupart des parents dans les classes, on va dire sociales, moyennes ou supérieures, font naturellement.
Oui.
Et puis, après, la difficulté, c'est justement dans les familles qui n'ont pas tous les outils pour comprendre ou aider ou accompagner leurs enfants, ou les moyens. Et bien, du coup, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il va y avoir tout un travail sur la langue, d'exercice spontané, qu'on fait tous les jours quand on déjeune avec son enfant, qu'on
joue en avec voiture, lui, ou des qu'on se promène. Tout, oui.
Voilà, on joue avec les formes du langage oral, et ces formes du langage oral vont préparer, vont donner des outils d'analyse de la langue qui vont préparer ensuite l'apprentissage de la lecture. Donc, évidemment, il faut vraiment accompagner, comprendre ce que fait le maître à l'école pour essayer de décoder le type d'exercice et essayer de travailler, d'insister si, par exemple, un enfant a des problèmes pour ou des petites difficultés pour comprendre tel son ou telle correspondance entre le graphème et le phonème. Et du coup, ne pas hésiter à accompagner sans se substituer, évidemment, parce que l'enfant, il faut que ça reste un plaisir. Mais il y a tout un tas d'outils dans la presse ou dans les librairies qui sont disponibles et qui sont là pour aider. Ça va des comptines aux histoires, aux choses comme ça.
Et il y a aussi cette émission. Janine Rechtat, y a-t-il un âge idéal pour apprendre à lire ?
Idéal, je ne sais pas bien. En France, on apprend à lire à 6 ans. Dans d'autres
pays, est-ce que c'est
pays,
le bon âge ? Est-ce que le cerveau est prêt ?
Oui,
est-ce que
c'est
un âge.
C'est un âge tout à fait. Qui convient bien, il n'y a pas de problème, je pense, majeur là-dessus. Par contre, la méthode, elle, est extrêmement importante.
Alors, nous parlerons de quelle méthode choisir tout à l'heure. Oui, Édouard Gentaz ?
Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'apprentissage formel, explicite, c'est attendu au CP. C'est-à-dire que globalement, la vieille idée, mais en fait, c'est quelque chose qui se passe sur plusieurs années. Et il faut bien imaginer que tout ce qui se fait en maternelle a une énorme importance, puisque c'est tout un travail de préparation à la lecture et l'écriture. Et ces exercices-là sont vraiment très importants, car ça va aider l'enfant à rentrer plus facilement dans la lecture au début du CP. Un enfant qui arriverait directement à 6 ans et qui n'aurait jamais été préparé à la lecture, c'est beaucoup plus difficile pour lui.
Bien sûr.
Et donc, il y a tout ce qui se fait en matériel qui est vraiment d'une importance cruciale.
Capital. Y a-t-il des spécificités de la langue française qui la rendent particulièrement difficile à aborder par la lecture, Jean-Pierre Terrail ?
Bonne question, puisqu'elle a été débattue à propos de l'exemple de la Finlande, où on a dit que la langue finlandais apprenait plus facilement à lire la Finlande, dont on connaît les bonnes performances.
Qui est l'un des meilleurs élèves du classement PISA.
Leur langue était plus phonétique, leur écriture était plus phonétique. C'est vrai que le français écrit a une histoire maintenant déjà relativement longue et qui l'a amené à diverger assez sensiblement de l'oral. C'est Ferdinand de Saussure qui fait remarquer que le terme « oiseau » n'a plus, dans l'orthographe du français, n'a plus aucun des signes, des graphèmes qui le traduiraient normalement, phonétiquement, puisque oiseau devrait s'écrire, si l'écriture était complètement phonétique, oiseau devrait s'écrire W-A-Z-O. En fait, comme l'on sait, ça s'écrit O-I-S-E-A-U. C'est vrai que cela représente une difficulté, mais qui n'est, si la méthode d'apprentissage est correcte, comme le disait Janine, cet écart entre le français écrit et le français oral n'est pas du tout un obstacle insurmontable à l'apprentissage.
Mais enfin, comme il n'est pas naturel, il demande d'être particulièrement bien amené et travailler aussi bien à la maison qu'à l'école. Je vous propose d'accueillir un premier voisin. Il s'appelle Malik et il est au Sénégal. Bonjour Malik.
Bonjour Anastasie.
Comment ça va ?
Comment bien, premier de
l'Est ? Vous êtes à Matam et c'est à l'est du Sénégal, c'est ça ?
Au nord du Sénégal quand même.
Au nord du Sénégal,
oui.
Autant pour moi. Alors, pour vous, pour enseigner la lecture en français, qu'est-ce qu'il faut ? Vous avez des idées assez précises.
Oui. En français, ce n'est pas la lettre, mais le graphème qui est chargé de transcrire un phonème. Un graphème peut se composer d'une lettre A, d'un digramme AI, d'un trigramme EAU. Donc, un graphème, c'est l'analogue écrit du phonème. Donc, en ce qui concerne la démarche pour apprendre les élèves à lire, il faut respecter les phases suivantes, c'est-à-dire écrire les mots au tableau, les faire lire globalement, les faire transcrire, c'est-à-dire les dessiner.
Alors précisons Malik que vous êtes instituteur.
Oui, c'est instituteur, oui.
Et que ce dont vous nous parlez, c'est en fait la méthode que vous appliquez dans votre classe auprès de vos élèves.
Oui, c'est cette méthode-là qu'on applique. Et c'est le programme, c'est la même démarche aussi pour tous les instituteurs au Sénégal.
Très bien. Et c'est une méthode qui vous donne satisfaction ?
Oui.
Alors justement, là, Là se pose la question de la méthode que nous abordions tout à l'heure, Jeanine Reichstadt.
Oui.
Quelles sont, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu quelles sont les méthodes à disposition? Alors, parce que Malik insistait sur les graphèmes et sur l'écriture des mots qu'il faut faire apprendre.
Tout à fait.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, alors aujourd'hui, on ne peut plus parler de méthode globale. Hein. Elle n'existe plus, elle n'est plus enseignée, cette méthode. Par contre, subsistent deux méthodes, celle la mixte et la syllabique. La syllabique, elle, repose sur un déchiffrage, l'apprentissage du déchiffrage, de façon précoce et systématique. En partant des graphèmes, et là je suis bien d'accord, en partant des graphèmes et non pas des sons, on apprend à lire.
Alors, donc, les graphèmes,
oui,
qu'est-ce que
les
c'est?
Les graphèmes, c'est la transcription des sons de la langue. Les sons de la langue française sont au nombre de 36, on appelle cela des phonèmes. Et les graphèmes, c'est l'écriture, enfin c'est, oui, la transcription.
C'est la transcription écrite de ces sons.
Alors parfois, il y a des graphèmes d'une lettre, des graphèmes de deux, des graphèmes de trois, voire des graphèmes de quatre lettres. Par exemple, le graphème O, qui transcrit le son O s'écrit E-A-U ou A-U, etc. Donc, on apprend à lire et donc on regarde les graphèmes. C'est tout à fait fondamental. Ça rejoint ce que disait Jean-Pierre Terrail tout à l'heure, cette question-là. Donc ça, c'est la syllabique. La syllabique qui s'attache exclusivement au déchiffrage parce que nous pouvons déchiffrer tout ce qui s'écrit en français sans comprendre tout ce que nous déchiffrons. Par contre, nous ne pouvons jamais comprendre un texte si nous ne le déchiffrons pas de façon parfaite, c'est-à-dire habile, précise et rapide. L'enjeu fondamental est là. Or, la méthode mixte, elle, fait bien du décodage. C'est sûr, elle fait du décodage, mais elle ne le fait pas du tout de cette façon-là, car elle introduit d'autres pistes pour apprendre à lire. Elle introduit l'usage de dessins, d'illustrations dans le processus même d'identification des mots. Elle introduit également de la globale, c'est-à-dire de la reconnaissance globale avec un stockage en mémoire des mots appris de cette façon-là. Elle introduit également de la devinette. On demande aux enfants, pour identifier les mots, de s'appuyer sur des illustrations ou sur le contexte de l'histoire qui a été lu par l'enseignant. Je pourrais donner des exemples tout à fait probants de cette démarche. Donc vous voyez que la mixte, comme son nom l'indique, elle mixte des pistes différentes. Et c'est là que les enfants sont troublés, sont complètement perdus. Ils ne savent
pourquoi
plus
ça fait
ce qu'ils
trop
font.
De pistes.
Ça
en
fait
même
trop
temps.
De pistes et ça fait des pistes. Ça fait des pistes qui ne parviennent pas à réussir l'objectif d'apprentissage qui est de parfaitement déchiffrer pour comprendre. Il n'y a pas de compréhension sans un déchiffrage parfait. Le déchiffrage, c'est l'accès.
Donc il y a la méthode syllabique, la méthode mixte.
Oui, oui. Et c'est tout aujourd'hui.
Entre ces deux-là, votre cœur ne balance même pas, vous avez fait votre choix.
Ah oui, complètement. 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 Vous rappeliez tout à l'heure au début de l'émission que 20% des jeunes de 15 ans sont en grande difficulté de compréhension de l'écrit. On peut ajouter que ceux qui restent ne sont pas tous en capacité de bien comprendre l'écrit.
Oui.
Une étude de 2004 a montré que seulement 33% des enfants qui entrent en 6e sont bien à l'aise pour faire des études normales, satisfaisantes au collège.
Seulement 33%.
Plus de 50% sont fragiles. Ça nous indique vraiment quelque chose d'extrêmement inquiétant. Et d'où la nécessité de se pencher sérieusement sur cette question. C'est ce que nous avons voulu faire avec cet ouvrage, enseigner efficacement la lecture compréhensive.
Ouvrage dans lequel vous exposez les différentes méthodes et vous apprenez également à vos lecteurs à évaluer les méthodes, ce qui est extrêmement important parce que c'est un travail scientifique et il faut rester un minimum objectif. Un voisin a une question à vous poser, il est à Paris et il s'appelle Mustapha. Bonjour Mustapha.
Bonjour Anastasie, patronne de la censure.
bonjour, ça c'était dans les années 50, Mustapha.
Alors, j'ai entendu une fois, mais je n'ai entendu qu'une fois, qu'on avait fait des recherches Et on avait fait l'expérience de montrer évidemment aux enfants en cours d'apprentissage la forme visuelle des lettres, mais on s'est amusé aussi à leur faire toucher ces mêmes caractères, donc découpés par exemple dans de la feutrine. Oui. Et on s'est aperçu donc que cette association forme vue et forme touchée améliorait de 30% l'apprentissage de la lecture et évidemment aussi de l'écriture. Alors, mais je n'en ai entendu qu'une fois. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il faut en penser?
Jean-Pierre Terrail, qu'est-ce que vous pensez? Et puis ensuite, Édouard Gentaz.
Je peux en parler parce que c'est moi l'auteur de ces recherches, c'est pour ça.
Ah, formidable, formidable. Alors, Édouard Gentaz et ensuite Jean-Pierre Terrail.
Bon, en fait, si vous m'entendez, alors Jean-Pierre Terrail. Donc, j'ai entendu ça une seule fois et je ne sais pas pourquoi, cette découverte, on va dire, n'a pas été suivie.
Moustapha, je vous propose qu'on pose la question à nos invités et qu'on ait leur réaction quant à ce que vous nous apportez, qui est d'ailleurs très intéressant.
Oui, en fait, ce sont des recherches qu'on a menées depuis une dizaine d'années, qui sont des recherches où on montre que les entraînements multisensoriels, oui, c'est-à-dire des entraînements où quand l'enfant travaille sur un graphème, une lettre simple au début, puis des graphèmes complexes après, et qui fait un travail de correspondance avec le phonème correspondant, si on rajoute une exploration tactile avec manuel, une exploration beaucoup plus séquentielle, eh bien, en fait, ça favorise la connexion entre le graphème et le phonème. Et à la fin de l'année, quand on entraîne systématiquement les enfants avec cette méthode multisensorielle, où on ajoute le toucher, si on prend la moitié des enfants, par exemple, qui font du multisensoriel, l'autre moitié qui fait simplement des lettres imprimées sur un carton, eh bien, on montre qu'à ceux qui ont eu un entraînement multisensoriel, à la fin de l'année, donc c'est en grande section de maternelle, ils lisent deux fois plus de pseudomots, de mots qui ressemblent à des mots, qui font une mécanique de décodage, que les enfants qui ont été entraînés seulement avec le graphème, mais présenté seulement visuellement.
Donc on n'apprend pas seulement avec les yeux, on apprend aussi avec le corps, entièrement.
Voilà, et il faut dire à monsieur, à votre auditeur, que vraiment il y a eu beaucoup de communication dessus, puisqu'on a été interrogé, mais dans tous les médias, et c'est passé à peu près dans toutes les télés.
Alors, très bien, mais est-ce qu'on peut imaginer, Jean-Pierre Terrail, une méthode comme celle-là? Est-ce que ça serait à encourager comme méthode d'apprentissage?
Écoutez, regardons la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Oui. 90% environ des maîtres dans l'école publique en France utilisent une méthode mixte. 10% seulement, la méthode que nous pensons la plus efficace, à savoir, comme le disait Janine Restat, la méthode syllabique.
La syllabique.
Le premier problème, me semble-t-il, est d'abord d'approfondir la confrontation entre ces deux démarches. Le procédé que nous propose notre collègue Gentaz, qui l'a expérimenté, est certainement très intéressant. Il a beaucoup plus aucune expérience particulière sur cet aspect de la question. Mais cela me paraît être une amélioration de la démarche syllabique.
Donc si c'est une amélioration, elle est à intégrer.
Elle est tout à fait, sans doute, à intégrer. Le problème fondamental me paraît d'abord celui de la confrontation et du choix entre l'une et l'autre méthode.
Très bien.
Notre ouvrage.
Très bien. On continue d'en parler dans la deuxième partie. 7 milliards de voisins et l'apprentissage de la lecture, neurosciences, méthodes et diffusion du savoir, grâce à nos invités Janine Restat, Édouard Gentaz et Jean-Pierre Terrail. Après le Flash Info, nous nous retrouverons pour explorer ce sujet aussi complexe qu'important. Quelle méthode pour quel enfant, pour quelle culture? Y a-t-il un âge où l'on cesse d'apprendre à lire? Et aussi vos questions, les voisins, appelez-nous 33 1 84 22 71 71. À tout à l'heure.
Sept milliards de voisins, on est ensemble.
Retour à 7 milliards de voisins avec nos invités Janine Rechtat, Jean-Pierre Terraille et Édouard Jantaz. L'apprentissage de la lecture, les voisins, voilà notre sujet d'échange aujourd'hui. Et nous avons vu avec nos invités que pour eux, et c'est leur métier que de l'analyser, la méthode syllabique semble être la plus adaptée. Et nous avons compris aussi qu'augmenter des travaux d'Édouard Jantaz sur un abord plus tactile et plus complet du corps. Oui, Édouard Jantaz.
Oui. Oui, je précise que quand moi je parlais du multisensoriel, c'était de la méthode de, c'est des entraînements spécifiques, c'est-à-dire, c'est on prend par exemple quelques heures dans la semaine par petit groupe et on entraîne spécifiquement une compétence reliée à la lecture en grande session de maternelle, section de maternelle. Mes collègues veulent parler plutôt du manuel et de la méthode enseignée systématiquement, c'est-à-dire quelque chose qui comprend toutes les activités globales liées au français. Pendant le CP.
Donc, vous parlez de
beaucoup plus complexe.
Et moi, je parle de à la fois plus complexe et peut-être qui vous parlez intervient peut-être avant.
Oui, c'est-à-dire que nous, c'est juste pour impacter le mécanisme de décodage et son automaticité, mais une méthode de lecture, donc ce qui est encore différent que d'un manuel, mes collègues vont probablement en parler, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe et ça reprend, par exemple, en CP, officiellement, il y a au moins 10 heures de lecture de français qui doivent être proposées par semaine. Donc sur ces 10 heures, il y a tout un tas d'activités à choisir et le maître, eh bien, en fonction de son expérience, du manuel qu'il a, des activités annexes, de comment il va le transformer, eh bien, il va proposer tout un tas d'activités. Et nos entraînements, si vous voulez, c'est une petite partie de ces activités. Et toute la question, c'est quelles activités optimisent l'apprentissage de la lecture.
Très bien, et cette précision est importante puisque vous le soulignez en première partie, Janine Rechtat, seulement 33% des élèves en 6e arrivent outillés pour aborder le collège de manière sereine.
Tout à fait.
Ce que Édouard Jantaz disait introduit tout à fait ce qui va venir. Donc nous avons parlé des méthodes que vous nous avez présentées. Oui. Maintenant parlons des manuels.
Oui. Alors, les manuels, bien sûr, sont très nombreux.
Mais comment on évalue l'efficacité d'un manuel ?
Quand on regarde l'ensemble des manuels qui existent, que les maîtres peuvent choisir, on s'aperçoit qu'il est possible de les classer justement en deux grandes catégories, la catégorie des manuels de la mixte et la catégorie des manuels de la syllabique. Mixte et syllabique, ce sont des méthodes qui se trouvent ensuite déclinées dans des manuels particuliers. Alors évidemment avec des variations d'un manuel à l'autre. Mmh. Hein. Néanmoins, il y a quand même ces deux grandes catégories. Les manuels, nous en faisons une recension dans le livre.
Absolument. Hein,
nous avons pris quelques manuels représentatifs aujourd'hui dans les pratiques d'enseignement de la méthode mixte et quelques manuels, il y en a moins. Jean-Pierre Terraille le rappelait tout à l'heure, 90%, 10%, il y en a moins de la méthode syllabique. Et nous avons justement analysé ces manuels à la lumière de grilles de lecture qui renvoient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire un déchiffrage extrêmement précis, systématique et précoce dès la première journée de classe et pour la syllabique et quelque chose d'autre, c'est la mixte, toutes les manières de faire dont j'ai parlé tout à l'heure.
Un mélange de différentes techniques. Jean-Pierre Terraille, comment expliquez-vous que si la syllabique est plus efficace, elle ne soit pas plus appliquée et plus utilisée en France ?
Oui, pour répondre à votre question, il faut faire un petit peu d'histoire. La syllabique a été la méthode dominante pendant très longtemps.
Oui.
Et c'est elle qui a alphabétisé des générations et des générations de Français depuis la réforme et la contre-réforme au début de l'Ancien Régime, du XVIe siècle. C'est dans les années 1960 seulement que... Pour cette raison que le collège s'ouvrait à des jeunes qui n'y avaient pas accès jusque-là, grâce aux réformes de l'époque, les responsables de notre système éducatif se sont interrogés sur les meilleures façons favoriser cet accès au collège à des jeunes venant de familles qui avaient peu de tradition de scolarisation. C'est dans ce contexte que un ensemble de militants pédagogiques qui souhaitaient démocratiser l'accès aux études à des études plus longues ont pensé justifié et efficace de recourir au principe de la méthode globale. Plusieurs ouvrages célèbres ont été publiés et ont eu beaucoup d'écho au long des années 70, allant dans ce sens. Au nom du le principe général auquel se référait cette mouvance pédagogique était le principe selon lequel lire, c'est comprendre. Or, disait-il, avec la syllabique, on déchiffre, mais
on ne comprend pas.
Voilà, et donc il faut pouvoir favoriser l'accès direct des élèves à la compréhension. Or, ce qui se comprend, c'est le mot, c'est pas la syllabe, d'où l'idée d'un déchiffrement global du mot, sans passer par sa décomposition en lettres et en graphèmes, d'où l'idée de deviner quand on sait déchiffrer une partie d'un mot.
Deviner la suite.
On devine la
Donc
suite,
on part au plus etc. pressé avec la méthode globale d'une certaine manière.
Ouais. Dans ce contexte historique, la méthode globale a été érigée, ou plutôt la méthode syllabique a été érigée en emblème du conservatisme politique et pédagogique. Ce thème a eu une très très grande force de conviction. Cette rénovation pédagogique des années 60-70 a eu un très très grand succès. Ça a été un véritable succès historique. Et c'est ce qu'atteste le fait qu'aujourd'hui, 90% des maîtres sont convaincus la méthode syllabique forme des déchiffreurs, mais pas des lecteurs qui comprennent ce qu'ils lisent, et sont donc extrêmement réticents à modifier leur pratique.
Eh bien, ils ne sont pas les seuls. Accueillons un voisin malien, il s'appelle Cheikh Oumar, qui pour qui la méthode globale est la bonne méthode. Bonjour, Cheikh Oumar.
Bonjour, Anastasie. À mon avis,
oui,
la méthode la plus efficace d'enseignement de la lecture est la méthode globale, c'est-à-dire partir du général au particulier.
Très bien.
Et la phrase, on aboutira aux syllabes. Et enfin, à la lettre. C'est la méthode qui a marché et a continué à bien marcher au Mali depuis longtemps. Et c'est la méthode que moi-même j'ai appris et je continue à faire apprendre à mes élèves.
Parce que vous êtes instituteur, oui, vous aussi.
Oui, je suis instituteur au sud du Mali, oui, précisément dans la région de Kay, au siècle de Kenyeva.
Très bien. Donc cette méthode globale vous convient tout à fait.
Alors, la méthode qui a remplacé en fait au Mali aux méthodes syllabiques. Et c'est une méthode que j'apprécie beaucoup. Et grâce à cette méthode, je suis sollicité non seulement dans les domaines scolaires, mais aussi à l'alphabétisation des gens qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école.
D'adultes.
Oui.
D'accord.
D'adultes. Effectivement.
D'accord. Merci pour votre témoignage, Cheikh Oumar. Monsieur Edouard Gentaz, oui.
Oui, parce que là, on tombe dans les fameuses querelles de lecture et c'est très compliqué parce que forcément, il y aura des personnes qui ont appris à lire avec la méthode globale et qui n'ont pas de problème. Et puis, il y aura aussi des exemples de gens qui ont appris en syllabique et qui auront des problèmes. On est sur des études de cas particuliers.
Mm-hmm.
Et le problème des recherches en France, si vous voulez, c'est qu'on n'est pas habitué à faire de ce qu'on appelle de l'expérimentation ou de la recherche-développement dans l'éducation. Si vous voulez, un manuel, c'est pour ça qu'il y en a autant, il y a autant d'éditeurs, mais derrière, il y a un énorme business à faire, puisqu'en fait, il suffit d'être 4-5 mètres autour d'une table, ils ont expérimenté une méthode, ils trouvent un éditeur et c'est mis sur le marché. On trouve un inspecteur qui met son nom et puis c'est fini. Je caricature, mais c'est un peu ça. Donc, il y a autant de méthodes que de personnes qui expérimentent dans leur coin. Et si vous voulez, la mise sur le marché du manuel ne fait jamais l'objet d'une évaluation de son efficacité. Vous voyez, quand on fait un médicament, on doit tester l'efficacité plus que l'effet placebo, on doit montrer qu'il apporte plus que le manuel précédent. Ça, c'est une démarche qui n'existe pas en éducation, à mon grand regret, et ce qui fait qu'en fait, sur le marché, il peut arriver tout un tas de mêmes. Quelqu'un qui dit « je lance mon méthode globale, je le mets sur Internet », on peut l'utiliser.
Oui. Alors,
il n'y a pas derrière, il n'y a pas une volonté de lancer des grandes expérimentations où on pourrait tester l'efficacité de telle ou telle méthode. Il y a extrêmement peu de recherches en France, par exemple, où on a comparé les quelques recherches qui montrent qu'on compare l'idiovisuel, les syllabiques et les mixtes, montrent toutes que la globale elle est moins efficace, si vous voulez. Mais il y en a très, très peu de recherches. C'est quelque chose qui ne se fait pas dans notre culture.
Janine,
plein d'autres pays ont lancé tout un tas d'expériences.
D'accord. Laissons Jean-Pierre Terrail. D'accord. C'est entendu. Laissons Jean-Pierre Terrail réagir et puis ensuite j'aimerais avoir votre opinion.
Notre collègue a raison globalement, si je puis dire.
Oui, alors du coup, c'est quand même assez inquiétant ce que dit Édouard Jantaz.
Pardon.
C'est assez inquiétant ce que dit Édouard Jantaz. Ça veut dire que les enseignants et les chefs d'établissement se retrouvent finalement un peu démunis seuls face à une offre pléthorique. Alors comment on choisit? Par copinage? Par
absolument.
Sensibilité
On choisit, mais on a la chance maintenant de disposer, grâce à l'enquête qui a été dirigée par Jérôme Dovio, de premières données. Je rappelle brièvement, c'est instructif de ce point de vue, l'historique de cette enquête. J'avais été interviewé et par Télérama pour un débat avec le ministre Vincent Peillon en 2012,
oui.
Et je lui avais posé ce problème en lui disant il faudrait quand même pouvoir éclairer les enseignants en comparant l'efficacité des manuels avec les moyens de l'État, les moyens d'enquête statistique de l'État. Le ministre a argué de la liberté pédagogique des enseignants pour dire mais non, si on faisait ça, on donnerait l'impression d'imposer telle ou telle méthode, etc. Je crois pour ma part, comme Édouard Jantaz, que la liberté pédagogique des enseignants gagnerait tout à s'exercer de la façon la plus instruite. Et la suite de l'affaire, c'est que Jérôme Dovio, notre collègue, avec des moyens artisanaux, relativement artisanaux, il est membre d'un labo CNRS, mais il ne disposait pas donc de gros crédits pour mener à bien cette opération, et il a engagé une recherche qui a porté sur la comparaison de 4 manuels qui décrivent à peu près le champ, l'éventail existant des manuels disponibles aujourd'hui sur le marché, et l'enquête a porté sur 24 classes de CP dans des écoles dites en réseau éclair, c'est-à-dire les écoles où c'est le plus difficile, la partie la plus dure des EP, si vous voulez, et en contrôlant le niveau de diplôme des parents, les résultats ont été tout à fait spectaculaires, donc résultats qui portent sur plusieurs centaines d'élèves et 24 classes, donc uniquement dans les quartiers difficiles, portant sur 4 manuels qui montrent que, d'une part, il y a un effet manuel absolument considérable,
bien sûr,
chose égale par ailleurs, à niveau donc notamment culturel, identique,
oui,
comparable des parents, il y a un effet manuel considérable qui est d'environ 20 points sur 100. Pour vous donner un exemple, il y avait un test. Ce qui s'est passé, la procédure, ça a été des tests qui ont été passés aux élèves de ces 24 classes en juin 2013, et ont été testés le déchiffrage, la compréhension, l'orthographe et la syntaxe.
Et quels ont été les résultats?
On a pris un indice moyen,
oui.
Et c'est cet indice moyen sur 100, on voit que par rapport au manuel le moins efficace, le manuel de la mixte, le plus proche de la globale, le manuel le plus efficace fait gagner 20 points. Pour vous donner un exemple, sur le test de déchiffrage,
pardonnez-moi Jean-Pierre,
oui,
Terrail, ce que vous voulez dire, c'est que au fond, et c'est ce qui me paraît absolument incroyable, c'est que les enseignants sont seuls face au choix de méthode, ce qui veut dire,
oui,
que c'est quand même inquiétant.
Ils ont même pas le choix, parce que souvent les manuels sont achetés pour plusieurs années, donc quand,
oui,
un maître arrive dans l'école, de toute façon il n'a pas bien le choix, parce que si on dit aux parents qu'on va travailler sans manuel, il faut être très persuasif, parce que les parents, à juste titre, ils disent sur quel manuel on travaille. Un maître qui arrive, qui dit je vais improviser tout,
bon,
c'est
alors,
pas très rassurant
Je vous propose un peu de musique, puisqu'il paraît que ça adoucit les mœurs, et puis surtout, pendant, nous réfléchirons peut-être à quel recours les parents ont à leur disposition, s'ils tombent sur une méthode dont ils pensent ou dont ils savent qu'elle ne correspond pas aux besoins de leur enfant. Tout de suite, c'est un rappeur canadien, il s'appelle Loud Larry Adjust, il est ici en duo avec un chanteur, Karim Ouellet. Ça s'appelle Automne.
Dites à mon amour qu'elle est morte. J'aurais donc jamais dû donner mon cœur. Barrer la porte et puis fermer l'espoir.
Si jamais un jour je m'en sors, j'aurais donc dû mettre un masque de renard, virer le rideau pis dire bonsoir.
You see me wearing all black tous les jours, comme si j'allais flasher mon linge du funerals. Cause everybody dead, je les vois dans les cieux. What up? Restez silencieux pendant les verses. Shut up. Restez silencieux pendant les derniers vœux du jeune homme. Les sourires, c'est pas mon fort, je trouve ça presque gênant. So why so sentimental? J'ai pas le wallet de Karim. All about the money, j'ai pas choisi d'aller facile. Shooting for the stars, aiming for the moon. Made a finger to the sun. Still I'm on the run, I call the boot. Sorted sous le bois comme un trou. A few bottles of photo booth, je suis encore de boot. Tu veux tromper ta blonde, tromper la mort. Un nouveau crib, un nouveau chat. Living big like there's no tomorrow. Till they find you in the total car, au revoir.
J'ai mis les roses dans le canon de gun que j'avais chargé de deux balles le premier jour où j't'ai croisé en automne. Faudrait leur donner du soleil, non? Finger on the trigger just to lay down. J'ai mis une LED dans une bouteille de choses rares que j'compte garder pour nos vieux jours peut-être. So yeah, I had a few drinks. En fait, j'suis sous mort pour tout dire. Mais qui a peur de mourir? Moi, j'ai peur de vieillir. En fait, j'ai peur de mourir de vieillesse. Chacun réveillé, j'vais dans le sens inverse pour rester jeune. And love and trust get lost in translation. On fait la guerre, me and my girl. Ouvre-moi ton cœur, mais ferme ta gueule. Insecure, up against the world. Ça aurait pu nous tuer, but I made it work.
Milliards de voisins avec la musique de Loud Larry Adjust avec Karim Ouellet. C'était automne. Les voisins, le sujet, l'apprentissage de la lecture vous passionne évidemment. Et c'est un nouvel auditeur que nous allons prendre. Il s'appelle Abdoulaye. Bonjour.
Oui, bonjour Anastasie.
Soyez bonjour, le bienvenu Abdoulaye. Beaucoup de voisins enseignants aujourd'hui. Vous êtes instituteur vous aussi?
Oui, je suis instituteur au nord du Burkina Faso.
À Bangassé.
Précisément à Bangassé.
Alors, voilà,
chez nous, la lecture, au Burkina Faso, on a beaucoup de problèmes pour enseigner la lecture. Parce que les contenus ne sont pas adaptés à la réalité des enfants. Bon, dans les documents, souvent, nous voyons certaines choses que les enfants peuvent finir tout leur cursus scolaire sans les voir. À supposer, dans le village où nous sommes, on peut nous parler des routes goudronnées. Bon, la route goudronnée, l'enfant, il est là, il peut finir tout. Le cycle primaire, sans même voir le goudron.
Oui.
Et une route même, une bonne route, il n'y en a pas. C'est des pistes chez lui.
Oui.
Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect qui fait que la lecture ici, on a beaucoup de problèmes, et que les enfants même ne s'intéressent pas à la lecture, ce sont les livres cachés de faute.
Mmh.
Les livres qu'on met à la disposition des élèves et des enseignants sont pleins de fautes. Donc, ce qui fait que quand on prend les livres, lors de la lecture, on demande aux enfants de prendre également des crayons ou des bics. On
corrige
les choses au fur et à mesure.
Bien sûr.
Donc, quand on fait comme ça, l'enfant regarde, il ne fait plus confiance. Il ne sait pas, entre les livres et les maîtres, qui dit la vérité.
Mm-hmm.
Donc, du coup, il a un désintérêt au niveau de la lecture.
Donc, très bien.
C'est aussi un aspect qu'il faut ajouter.
Bien sûr, bien sûr.
Oui.
Bien sûr. Donc, c'est l'une des difficultés que vous rencontrez en tant qu'enseignant au Burkina Faso.
Justement.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Abdoulaye.
Merci, Anastasie.
Alors, ce que soulignait Abdoulaye, évidemment, c'est une question dont doivent s'emparer les pouvoirs publics burkinabés. Trouver des méthodes adaptées aux réalités concrètes, effectivement, parler de poteaux électriques ou de goudron dans un pays où il n'y a ni l'un ni l'autre, comme exemple, comme pour donner envie à l'enfant de décrypter le monde autour de lui et de l'écrire, ça n'est pas simple. Mais voilà, ça fait partie de ces problématiques-là. Avant l'intervention d'Abdoulaye, nous parlions des méthodes et de comment les enseignants ont accès à ces méthodes. Et je vous posais la question, madame, messieurs, qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve avec une méthode qui ne convient pas? Quel recours a-t-on quand on est parent? Édouard Jantaz.
Oui, alors moi déjà,
rapidement, parce que l'émission touche à sa fin, s'il vous plaît.
Il faudrait être vraiment sûr déjà que la méthode ne convienne pas, parce qu'il ne faut pas non plus absolument déclencher la guerre entre les parents et les maîtres, et à la première réunion parents-prof, il y aura un conflit. Donc déjà, il faudrait qu'on puisse renouveler l'étude de façon massive, et pour être sûr, parce que là, ils ont trouvé quelque chose de très important, mais avant de déclencher les foudres et les conflits
majeurs, s'assurer que la méthode ne convient pas, première chose. Si on est toujours sûr que la méthode ne convient pas, qu'est-ce qu'on fait?
Et bien du coup, rencontrer le maître, oui, et expliquer, lui demander pourquoi il a choisi ça. Mm-hmm. Et du coup, s'il y a des exercices, de toute façon, le maître ne va pas changer parce qu'en cours d'année, il aura choisi son manuel.
Oui, peu probable.
Et bien le parent, il travaille de lui-même tout seul à côté, quoi.
Et c'est là où vous intervenez, Janine Reichstadt.
Oui, je crois qu'on ne peut pas, essayer de nourrir une polémique entre les parents et les enseignants. Ça serait complètement stérile.
Et puis contre-productif.
Et contre-productif pour les enfants. Toutefois, cette réalité-là des difficultés dont les parents se rendent compte en cours d'année, notamment vers le mois de décembre, janvier, ça amène certains parents, mais toujours un peu les mêmes justement, à essayer de se tourner vers une autre méthode, un autre manuel. Et il y en a un qui est vieux comme tout, il date de 1907, la fameuse méthode Baucher, que les éditions Belin vendent chaque année à raison de 10 000, dizaines de milliers d'exemplaires. Moi, personnellement, ça m'est arrivé de rencontrer des parents qui se sont inquiétés justement des difficultés de lecture de leurs enfants.
Oui.
Je me suis autorisé à leur conseiller notre manuel « Je lis, j'écris » et à aller voir également sur le site
leslettresbleues.fr
où nous avons un livre du maître, où nous avons beaucoup de choses, des vidéos, une présentation du manuel. Et ses parents se sont rendus compte que en retravaillant de façon systématique cet apprentissage du déchiffrage, ça améliorait considérablement la lecture de leurs enfants.
Une dernière auditrice, madame, messieurs, un auditeur, il s'appelle Chekna, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Chekna, vous êtes le bienvenu et vous êtes à Nouakchott.
Merci, je suis à Nouakchott. Je voudrais vous remercier. Je remercie d'abord mon professeur, mon premier professeur en oral RFI. Donc, ma question c'est, j'ai 40 ans.
Oui.
Je ne suis jamais allé à l'école.
Oui.
C'est la première fois que je me suis inscrit depuis 3 mois à l'Alliance française de Nouakchott.
D'accord, donc vous y êtes inscrit depuis octobre à peu près?
Oui, depuis seulement des sessions, 3 sessions, c'est pas encore...
Très bien.
Donc c'est ce que je voulais demander, est-ce qu'il y a une méthode spécifique pour nous les grands, le vieux papa qui est tombé amoureux de la langue française?
Comme je vous comprends.
La langue des Molières.
Posons la question, et c'est aussi la langue de Janine Reichstadt, donc...
Oui, oui, j'ai vu.
Quelle méthode pour les adultes?
Pour les adultes, écoutez.
La même que.
De toute façon, la méthode est la même pour tous.
Mais il y a besoin d'un nom, là.
Alors, un nom, bah écoutez. Je vais avoir l'air de faire de la publicité, mais oui, bien sûr. Je l'ai vu fonctionner auprès d'adultes en alphabétisation. Ça marche remarquablement bien.
La méthode s'appelle Je lis, j'écris.
Et aux éditions Les Lettres Bleues.
Voilà. Vous avez votre référence. Chekna.
La méthode, ça s'appelle comment?
Je lis, j'écris.
Je lis, j'écris.
Voilà.
Oui.
Et la maison d'édition, c'est Les Lettres Bleues.
Ah, ok. Merci.
Merci pour votre confiance et belle journée à vous, à Nouakchott.
Merci beaucoup.
Jean-Pierre Terraille?
Oui.
Auriez-vous quelque chose à ajouter sur cette question de l'apprentissage de la lecture pour les adultes?
Non, par rapport à ce que Janine Reichstadt vient de dire, effectivement, la méthode, de toute façon, c'est la même question pour les élèves.
D'accord.
Le contenu, je crois qu'effectivement, notre manuel « Je lis, j'écris » s'adresse... d'ailleurs, il y a des enseignants du collège ou même de lycée professionnel qui s'en servent pour réalphabétiser
les
élèves qui leur arrivent en plus d'état, parce qu'ils se sentent moins humiliés avec ce manuel qui est très beau, qui contient des textes littéraires, poétiques, etc.
Formidable. Pardonnez-moi, Édouard Jantaz.
Juste pour rajouter, vous voyez, on se retrouve face à un nouveau problème, c'est qu'il n'y a aucune recherche scientifique qui a été faite, où on a des résultats qui vont montrer qu'il y a une méthode qui est efficace chez les adultes. Et on discute de pas de données parce qu'en fait, ça n'intéresse pas.
Et comment expliquez-vous ce désintérêt alors que c'est une, l'illettrisme des adultes est une réalité?
Parce que derrière, il faudrait du coup financer avec des grands programmes de recherche, tester les méthodes mises sur le marché et ne les autoriser ou les valider que quand elles ont montré des effets positifs. Vous voyez, vraiment une logique un peu comme quand on met un vaccin ou un médicament. Je caricature, hein. Mais ce serait un peu cet esprit-là. Puisque pour l'instant, quand on dit scientifiquement ce qui va marcher, bah, en fait, on ne peut pas donner de réponse. On peut juste donner des conseils parce qu'on sent que ça, c'est meilleur, mais on n'a pas de données.
C'est entendu. Merci beaucoup à vous trois. Cette émission touche à sa fin. Janine Rechtat, je rappelle que vous êtes professeure honoraire de philosophie, co-auteure de Enseigner efficacement la lecture et co-auteure de ce beau manuel d'apprentissage de la lecture pour le CP. Je lis, j'écris. Jean-Pierre Terraille, également sociologue de l'éducation, co-auteur d'Enseigner efficacement la lecture, et Édouard Gentaz, directeur de recherche au CNRS. Merci à l'équipe 7 milliards, Cécile Lavolo, Romain Dubrac, Jonas Malet-Solars et Didier Chérouze. Vous pouvez retrouver cette émission au podcast Les Voisins, et lundi nous parlerons de ces Africains qui se réapproprient leur continent. Bon week-end à tous à l'écoute de RFI.